Merci Tiffaine, bon week-end. Deux invités, des cactus, des palmiers, un yucca et ce qu'ils peuvent bien cultiver en nous, éloge du regard, du lent temps végétal, du mouvement et de la lecture avec le poète et écrivain néerlandais Sis Nottebohm et le botaniste Marc Janson.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Sis Nottebohm et Marc Janson, bonjour, bienvenue.
Bonjour Manu Farine.
À tous les deux. Marc Janson, botaniste, responsable des collections de l'Herbier au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui co-signait avec Charlotte Fauve, botaniste, aux éditions Grasset. Récit d'apprentissage, de celui qui vous a montré comment baisser ou lever les yeux, dans votre cas, sans doute les avez-vous souvent levés.
On les baisse aussi régulièrement.
Spécialiste des palmiers, vers le monde végétal en tout cas, ce décor invisible, un récit qui secoue les feuilles de l'herbier, donc écrit dans les pas des naturalistes, fantôme d'explorateur et raconte ce qui travaille le botaniste d'aujourd'hui. Des palmiers, Sis Nottebohm, vous en avez planté dans votre jardin à Minorque, où vous passez vos étés depuis 1965. Des palmiers et surtout des cactus, quoique, on y reviendra, qui font comme fil et enseignement de 533, le livre des jours que vous signez aux éditions Actes Sud, dans la traduction de Philippe Noble. Et je précise qu'il est avec nous, comme il l'est depuis la vingtaine de vos ouvrages qu'il a traduits pour ces mêmes éditions. Le livre des jours, donc 80 chapitres ou notes, sans date ni état d'âme, mais avec rythme, plantes, animaux, livres lus et relus et conversations secrètes qui tiennent ce petit monde. Un voyage immobile, vous qui avez parcouru le monde, un voyage vertical, pourrait-on dire, comme une méditation des choses vues. Quelque chose, écrivez-vous, Sis Nottebohm, qui permette de fixer de temps à autre un peu de flux perpétuel de ce que vous pensez, de ce que vous lisez, de ce que vous voyez, mais en aucun cas un réceptacle à confession.
Quand je serai vieux, je serai insupportable, sauf pour mon lit et mon maigre passé. Mon chien sera mort, ma barbe sera minable, toutes mes morues m'auront laissé tomber. J'habiterai une quelconque Belgique qui m'insultera tout autant que maintenant, quand je lui chanterai vive la République, vive les Belgiens, merde pour les flamingants. La, la, la. Je serai fui.
1967, la la la, Brel, je vous vois sourire, Sis Nottebohm, un choix vôtre. Qu'est-ce que vous dit cette chanson par laquelle je ne me serais pas permise de commencer si vous ne me l'aviez pas demandé?
Mais j'ai vu que cette chanson que j'ai demandée n'est pas très connue en France.
Pas du tout. Hein.
Non, je sais. Et puis il y a un refrain qui est sage, qui est beau. Il faut bien être lorsqu'on a été. Et c'est peut-être ça qu'à mon âge de 80 tel que, ça me dit quelque chose. Et Brel est quand même un des plus grands pour moi. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. J'avais peur hier quand vous voulez me parler de David Bowie, etc. Non, parce que...
Mais c'est vous qui en parlez dans votre livre, si
oui, j'essaie, j'essaie, mais...
De Bowie, on n'y est pas encore. Alors là, on commence par Brel. Vous, c'est par les cactus de votre jardin à Minorque que s'ouvre ce livre des jours. Cactus dont les représentations photographiques en noir et blanc rythment la lecture et l'écriture. Cactus, plante cliché, cette plante qui est faite de l'union des contraires, dites-vous, comme s'il avait plusieurs âges en même temps. Il a de ces grandes feuilles, qui bien entendu ne méritent pas ce nom, écrivez-vous. Ce sont plutôt de grandes mains tendues mais sans doigts, des formes ovales et massives hérissées de petits piquants. Et un peu plus loin, certaines feuilles, je continue de les appeler ainsi, ont la consistance d'un cuir desséché, mais parfois elles ont ailleurs aussi de petites mains d'un vert clair et vif, à condition d'en retirer les piquants. On peut les couper en menus morceaux et les manger. Quant à leurs grandes mains mortes, ils les laissent tomber et elles surprennent par leur poids. Et encore plus loin, c'est ce que je veux dire en parlant des contraires, c'est comme si je me composais déjà, moi, pour partie de matière morte, et qu'en même temps, ils me viennent de nouveaux membres, même si je me demande comment me représenter la chose. » Commencer ce livre des jours par eux, par les cactus, c'était commencer par quoi ?
C'est sur cet endroit, je reviens toujours, et là j'ai écrit quelques de mes livres, mais des livres, disons, fiction. Pour une fois, je ne voudrais pas écrire fiction, et je revenais de quelques voyages en Amérique du Sud, Colombie, Bolivie, etc., Mexique, et j'ai vu énormément de ce que j'appelle moi cactus, parce qu'apparemment tous les cactus ne sont pas des cactus. J'ai compris.
C'est ce que Marc Janson nous a expliqué avant de rentrer en studio. Oui.
Ce sont des euphorbias. Pour moi, l'euphorbia, c'est la rose de Noël. Et j'ai utilisé l'euphorbia dans un poème sur Hugo Claus quand il est mort.
Je confirme.
Oui.
Confirme.
Mais bien sûr, je me sens un peu. Comment dit-on, nèdre, humilde.
Humble.
Ouais. Parce que j'ose pas parler de botanisme quand il y a un vrai botaniste.
Vous pouvez parler de vos cactus néanmoins, on va en parler un petit peu.
Ils sont devenus des amis, c'est de la famille, parce que.
Votre société, dites-vous, à propos de ces cactus.
Société, peut-être, si vous voulez, oui. Reserveschap. Eh bien, parce que je voulais avoir des cactus. Je suis allé dans une jardinerie, alors un endroit où on peut acheter des plantes, mais sur une île méditerranéenne qui est un peu loin de tout, et ils en avaient. Ils en avaient ce que pour moi sont des cactus. Mais je voulais savoir leur nom, mais ils ne savaient pas. Or, j'ai dit, mais celui-là, hein, cactus, seigneur. Et celui-là, cactus. Et après six, ça s'est resté comme ça, là. J'ai laissé tomber. Et aucun conseil comment de les planter. Et Menorca, c'est une île où il y a la tramontana, c'est un vent du nord très fort. Il peut pleuvoir pendant des longues périodes. Alors je ne savais pas du tout quoi faire avec eux. Je les ai plantés comme ça. L'année dernière, je suis revenu, ils étaient là encore. Et il reste là. Le seul problème que j'avais, c'est avec les tortues qui voulaient, à leurs pieds, les manger. Ils ont mis des marques cruelles. Alors j'ai vu que je devrais les protéger avec des pierres autour. Et jusqu'à maintenant, il y a quand même 8 ans, ils survivent tout.
Alors, même si les tortues les poussent un peu, les pierres.
Oui, ils essayent, mais d'une certaine façon, les tortues sont de la même étoffe, comme les cactus. Ce sont des cactus vivants, ou marchands, comme vous voulez.
Alors dans ce livre des jours, Cess Notbaum, on passe de Canetti à Joyce, par exemple, par tombe interposée, à Philip Ross, au pétunia, à un papillon, à Gombrowicz, au vent, à une araignée au plafond, à votre yucca, que vous entendez vous réclamer comme Goethe, plus de lumière, à Borges, forcément, à un trio d'écrivains hongrois, à Mallarmé, ce marbre froid, à David Bowie, donc. Et ainsi, donc, s'enchaînent les jours, tout se regarde, et vous regardez tout, à commencer donc par ces longs face-à-face avec les cactus, hein, qui peuplent littéralement votre jardin espagnol. Il y a là le mexicain, le cactus hérisson, le soldat, le phallique, le martyr, on comprend bien les formes de tous ces sujets. Ces cactus dont vous dites qu'ils résistent à la description, j'imagine que ça vous dit quelque chose, Marc Janson. Est-ce qu'une plante peut résister à la description, même pour quelqu'un comme vous ?
Non, parce que je pense que c'est au cœur de nos métiers et de notre façon de voir le vivant, c'est-à-dire qu'en tant que taxonomiste, systématicien, notre métier, notre objectif, c'est d'identifier les plantes, les identifier lorsqu'elles possèdent déjà un nom, ça veut dire utiliser des flores, ça veut dire être capable de s'armer d'outils pour poser un nom précis sur chacune de ces plantes. Ce que raconte Cisnotobom est très intéressant sur ces jardineries où on vous dit bah, c'est un cactus et l'autre à côté, totalement différent, qui n'a absolument rien à voir. Bah, c'est encore cactus. C'était un des objectifs de ce livre, c'était de montrer que souvent le végétal, c'est un tout. Le végétal, c'est la verdure, c'est la forêt, c'est l'uniforme, et c'est totalement l'opposé. Bien sûr que le végétal, c'est la diversité, et cette diversité, elle passe par des caractères spécifiques, des caractéristiques propres à chacune des plantes, et notre métier, c'est de les identifier. Alors, il n'y a pas que les botanistes professionnels, entre guillemets, qui se plaisent à faire des herbiers, à presser ces plantes, à les faire sécher. Il y a aussi des amateurs éclairés qui savent poser un nom précis sur chacune des plantes. Mais quand j'entends cactus dans la bouche de Cisnotobom, j'ai quantité d'images qui me viennent en tête, mais aucune image précise. Or, quand ces végétaux deviennent société, deviennent notre famille, comme il le dit, bah, les membres de sa famille, on a en général tendance à vouloir en faire un portrait précis. Et là, effectivement, ça manque, parce que ce besoin de poser un nom sur le végétal, c'est en comprendre, bien sûr, la nature, pouvoir l'associer à un écosystème, le rajouter sur la liste de tout ce catalogue du vivant que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est aussi, quelque part, se l'approprier, ou en tout cas s'en approprier les caractéristiques qui le font devenir petit à petit familier.
Quel regard alors un amoureux des palmiers pose-t-il sur le cactus ? Ou en tout cas, sur quoi est-ce que vous commencez par poser votre œil quand vous regardez un cactus ? Puisque le botaniste, c'est peut-être d'abord poser un œil.
Oui, c'est poser un œil, c'est sûr. Alors les formes, évidemment, sont très importantes. Donc on évoquait les raquettes tout à l'heure, on évoquait les épines. Tout ça, c'est des choses qui vont nous intéresser. Et c'est vrai que la force du cactus, c'est ces paysages de désolation que vous décrivez très bien. Et puis on a ces espèces de formes végétales qui sont là et qui, en quelque sorte, s'accrochent, s'évertuent à accumuler toute cette eau qui est si rare et si précieuse dans ces milieux arides et ces milieux méditerranéens et qui ont ces formes étranges. Certaines parties sont mortes, d'autres vivantes. Ça, c'est quand même une des caractéristiques assez splendides du végétal, c'est de pouvoir associer, à la différence de tout autre règne, du vivant et du mort dans un même corps, dans un même individu. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très étonnant et qui est absolument fascinant. Et puis, bien sûr, là où on va poser le regard, c'est sur les fleurs, parce que c'est aussi dans les fleurs que se trouvent quantité des caractéristiques, des informations qui vont nous permettre de donner un nom précis à chacun de ces cactus ou de ces euphorbes, s'il s'agit de plantes succulentes de l'ancien monde.
Je vous laisserai prolonger cette conversation après l'émission pour savoir exactement de quel cactus ou pas il s'agit. Mais on suit évidemment aussi au fil de vos soins portés à ces plantes. Hein. Je pense au yucca, je pense au laurier rose, je pense au lys. Et vous finissez par vous demander, renversant Voltaire avec une ironie certaine, hein, si ce n'est pas le jardin, au fond, qui vous cultive. Hein. Qu'est-ce que le cactus cultiverait alors en vous ?
Par exemple, forme de patience et de silence aussi. Ils sont là tout le temps, ils ne disent rien. Par exemple, un arbre fait un son quand il y a un orage, les cactus ne font rien. Ils sont là, le vent les touche sans doute, mais ils ne bougent presque pas. Sauf que, par exemple, ce que j'ai appris, c'est que c'était dans mon innocence une sorte de, que j'appelle de phallique, non ? Parce que c'est comme une phallus, mais ils montent tout le temps. Ils deviennent de plus en plus, même un peu effrayants. Et si je veux lui parler, lui demander quelque chose, il ne va pas me répondre. Et j'ai un ami qui est pas botaniste, mais mathématicien, mais qui vit sur l'île et qui est botaniste en pratique. Il en sait beaucoup plus que moi. Et je lui ai dit, mais dans la poésie allemande, surtout de l'ère romantique, les plantes ont des voix. Ils parlent. Le ruisseau parle. Chez Goethe, ils ont tous quelque chose à dire. Mais moi, j'ai vu que c'est pas vrai. Ils ne parlent pas. Il n'y a pas le ruisseau qui me dit quelque chose.
Sauf le yucca.
Oui. Mais je veux simplement dire que j'ai demandé à cet ami mathématicien sur les sentiments des plantes. Il m'a dit, non, écoute, c'est pas ça. Ils n'ont qu'un devoir, c'est d'être là. Ils sont là tout le temps. Rien de plus, ils ont besoin. C'est pour éviter un peu tout ce, disons, cette langue poétique où on donne des plantes des possibilités de nous parler, ils ne nous parlent pas. Ils se parlent.
Il n'y a pas que qui se parlent, hein. Les livres également se parlent entre eux. On va y venir tout de suite, Cis Notebaum, à propos de Cactus et de l'Union des Contraires. Hein, le livre s'égrène au fil des jours, qui sont réglés comme des horloges, ou presque, hein, au fil des transhumances de l'Allemagne, où vous vous installez l'hiver, à Minorque, donc où vous passez de longs étés, hein, au fil du jardin et des lectures, où vous racontez comment parfois les livres se lisent entre eux, se lisent eux-mêmes dans votre bibliothèque, en votre absence, comment ils se déplaisent même parfois. Et vous citez en particulier ce mépris terrible hein, de Borges pour Gombrowicz, rappelant ce malentendu du lecteur, hein, le lecteur qui croit que deux écrivains que l'on aime s'admirent forcément, ce qui est évidemment une erreur. Gombrowicz que vous lisez abondamment, Cis Notebaum, et qui traverse ce livre des jours, je pense à la lecture, à la relecture même de Cosmos, hein, ce texte opaque, comme vous dites, hein, comme un envers de Proust, de la clarté de Proust, Witold contre Marcel, donc Gombrowicz, dont vous évoquez justement le concept d'immaturité. On écoute la voix de l'écrivain polonais, disparu en 69.
La maturité est inaccessible. Être mûr absolument, cela signifie, à vrai dire, être Dieu. C'est impossible pour un humain, n'est-ce pas? Et moi, je considère que la jeunesse, c'est l'élément de la beauté dans l'univers, dans l'humanité. La jeunesse, c'est la phase ascendante de l'existence, la phase fleurissante, de sorte qu'il est absolument logique qu'un homme adulte et une nostalgie et pour la jeunesse, une admiration qu'il soit fasciné. Mais il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme moderne qui est privé d'un absolu, bien des fois il est privé du Dieu, il se sent seul absolument. Alors la chose maintenant, vraiment l'unique élément, peut-être de la beauté qui lui reste ainsi au sein de l'humanité, c'est la jeunesse. Alors ici, cette chose m'apparaît d'une façon extrêmement dramatique, parce que en même temps, la jeunesse, c'est l'infériorité. Être jeune, c'est-à-dire être inférieur, être moins intelligent qu'on sera, être moins conscient, moins fort, c'est se développer. Le développement, il implique toujours l'infériorité, n'est-ce pas? Si on n'est pas inférieur, on ne peut pas avancer. Et j'ai formulé aussi que l'homme adulte est entre les dieux et les jeunes. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut être pleinement mûr, c'est-à-dire il veut être Dieu, et à la fois, il ne veut pas être mûr parce qu'il veut être jeune. C'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation contradictoire.
La voix qui chante, hein, en français, en tout cas de Gombrowicz, et son éternelle obsession de l'immaturité, hein, la liberté de n'être encore personne, écrivez-vous, Cis Notebaum, de n'avoir pas de forme définitive. Comment vous entendez ce qu'on vient d'écouter?
Il avait un sort extraordinaire. Il était un comte polonais qui est allé comme sorte de journaliste à Argentine, à Buenos Aires, en 40-39. Et il a dû rester, il a vécu dans des milieux homosexuels, pas du tout le milieu de Borges. Alors j'ai essayé de savoir, parce que Borges donnait une lecture, une conférence à Londres. Et puis, comme public, on avait le droit de demander des questions. Et j'ai dit, Monsieur Borges, qu'est-ce que vous pensez de Gombrowicz? Aucune réponse. Beaucoup plus tard, j'ai su la réponse. C'est dans les journaux de Bioy Casares qu'il a écrit avec un, comment dit-on,
un dédain,
ce petit escritor zuelo.
Écrivaillon, je suppose.
Oui, pédéraste, etc., etc. De Borges, dont on pense qu'il plane au-dessus des eaux, hein, qu'il est le grand sage, il était bien vieux à ce moment-là, quand Bioy a écrit tout ce qu'il disait apparemment. c'était une déception, parce que j'admire Borges aussi, mais ils n'étaient pas faits pour... They were not made for one another, comme on dit.
C'est pas fait l'un pour l'autre.
Non.
Autre chose, si ce Notebaum relevé par Gombrowicz, hein, la jeunesse, la beauté, c'est, non, la jeunesse en tout cas, c'est l'infériorité. Si on n'est pas inférieur, on ne peut pas avancer. Alors, inférieur, dans le sens de Gombrowicz, vous l'étiez hein, dans les années 50, lorsque vous publiez Philippe et les autres, hein, écrit après un premier voyage en France, d'ailleurs, en Provence, et que le succès foudroyant vous tombe littéralement dessus. Il sera suivi du Matelot sans lèvres, Histoire tropicale, un recueil de nouvelles, et puis du Chevalier est mort en 63, dans lequel, d'ailleurs, l'un des écrivains, ça va être un peu long à expliquer, mais en tout cas, l'écrivain se suicidait, et puis Rideau, Silence, hein, jusqu'à Rituel en 1980. Pas assez vécu, dites-vous, pour avoir matière à écrire des romans. Ça voulait dire quoi, Six Notebooks, pour vous? Ça voulait dire qu'il fallait compter sur le présent et, au fond, ne rien demander à la mémoire?
Non, surtout pas. J'ai pas beaucoup de mémoire parce que, depuis la guerre m'a quitté, les années devant. C'est étrange, mais c'est vrai. Première journée de l'école, tout ça, ça n'existe pas. Non, il n'y a aucun.
Pas de souvenir.
Non. Et alors là, on a déjà quitté quelque chose. Hein? Parce que, par exemple, pour ses premières années, ce ne serait pas possible. Alors là, j'avais un achterstand.
Un retard.
Mais je veux dire, j'étais trop tôt avec ce roman, ce premier roman. Le troisième, j'ai fait... se suicider l'écrivain pour ne pas le faire moi. Et après, j'ai 17 ans de voyage, partout dans le monde, Afrique, Asie. Toujours sachant que viendrait autre livre. Mais si le livre ne vient pas, et là, j'ai attendu les 17 ans. Mais finalement, ce livre-là est venu, oui. Comme j'ai dit, cactus, patience...
L'homme cactus. Hein. Voyager, Six Notebooks, c'était aussi, j'imagine, se débarrasser de quelque chose. Je pense à la préface de « J'avais bien mille vies et je n'en ai pris qu'une hein, », traduit également par Philippe Noble, qui était paru en 2016 chez Actes Sud. Le philosophe Rudiger Safranski, à l'origine du recueil, posait l'hypothèse hein, que durant ce temps de latence et de voyage, hein, durant lesquels vous avez surtout donc écrit des récits de voyage, vous auriez notamment... appris l'ironie. Est-ce que pour vous, voyager, c'était aussi ça, c'est-à-dire se débarrasser de quelque chose, se débarrasser, paradoxalement, d'une forme de romantisme?
Sans doute, oui. J'ai reconnu son jugement. Je l'ai vu en 87 à Berlin. Et c'est comme ça que l'amitié a commencé entre lui et moi.
Pour en revenir, Six Notebooks, à cette question, justement, à cette notion d'ironie qu'il apporte, lui, hein, dans cette préface, je me demandais s'il y avait de la place pour l'ironie dans la poésie.
Bonne question. Avec des grands poètes, peut-être, oui.
Et dans la vôtre?
Je ne crois pas que j'écris de la poésie. Ironique, non.
Philippe Noble.
Je dirais que de temps en temps, il y a, parmi les poèmes que j'ai traduits de Seyss, il y a parfois de l'ironie. Par exemple, quand Seyss Notebaum fait parler des végétaux ou des choses qui s'adressent aux humains, il y a de la distance et il y a une forme d'ironie qui nous est renvoyée. Il y a aussi, dans certains de ses poèmes, une petite note de polémique que j'aime bien. Mais ça n'est pas le fond de la poésie de Seyss Notebaum. Mais le ton peut être léger. C'est cette alliance que j'aime beaucoup.
Je pense à un poème qui s'appelle « La première photo de Dieu ». Parce que j'étais avec un photographe et j'ai vu un paysan aux îles Canaries. Il est en train de travailler et j'ai dit à mon ami le photographe « Fais celui-là ». Et il a fait la photo. Et dans la photo, c'est Dieu qui parle, qui dit, moi j'ai créé tout, j'ai créé ce type-là, et puis...
Et le photographe.
Et le photographe. Et qui me regarde avec son œil, etc., etc.
Durant tout le temps, Cessnotbaum, durant ces 17 années, vous avez retardé le retour donc de la fiction, le retour du roman. Vous avez continué à écrire des poèmes.
Des poèmes et des essais de voyage.
Et des essais de voyage, mais des poèmes en particulier qui ont été rassemblés d'ailleurs toujours aux éditions Actes Sud. Hein, ça, c'était il y a très peu de temps, en 2016, traduit toujours par Philippe Noble, toujours ici présent. Le fait que vous puissiez continuer à écrire de la poésie, alors même que vous aviez suspendu la fiction, qu'est-ce que ça dit de la place qu'occupe la poésie, au fond, dans votre travail d'écriture ?
Disons que la poésie, c'est l'essentiel. On se met à écrire un roman, mais on se met pas à... On ne dit pas lundi, je vais écrire de la poésie.
Sans doute qu'il y en a qui se disent lundi, je vais écrire de la poésie.
Oui, je leur félicite.
Cessnotbaum, à vous lire, en tout cas dans le Livre des Jours, à regarder même vos dernières publications, vos derniers recueils, nouvelles, littérature d'art, forme de méditation, hein, comme vous disiez, Philippe Noll, est-ce qu'il y pourrait y avoir comme une lassitude au roman ?
Je ne sais pas, mais ce n'est pas que je suis en train de penser à un roman. Je pense plutôt à mon jardin de Menorca.
À vos cactus ?
Oui, c'est ça. C'est ça, ça quand même, ça a l'air un peu une blague de dire ce que j'ai dit sur Voltaire, que mon jardin me enseigne maintenant. Mais là, il y a une vérité là-dedans, absolument. La proximité, et c'est une île, je suis loin d'une ville, etc. Je suis près de la mer, mais pas à côté de la mer. Là, j'ai mon jardin et j'ai la terre autour. Et à mon âge, ça sert.
Alors, il y a ce jardin-ci, mais vous partagez votre temps, donc vous n'êtes pas tout le temps à Minorque, donc vous n'êtes pas tout le temps sur une île. Vous êtes aussi souvent en Allemagne. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a une écriture d'hiver et une écriture d'été, c'est-à-dire une écriture de la neige et du soleil, ou une écriture des sapins et des cactus, une écriture de biotope en tout cas?
Ça dépend du sujet aussi, de ce qu'on... C'est tellement difficile d'en parler quand même. Mais surtout en campagne, on peut faire de longues promenades. Et sur les pas de longues promenades, on peut penser. Il y a un certain rythmique pour les penser aussi. Et puis pour revenir dans un endroit clos, comme mon studio, c'est comme une cellule de moine peut-être. Là, il y a le jardin autour. C'est pas facile de parler de ces choses-là.
Le lever du jour, qu'on voit, bien sûr, extrait de Daphnis et Chloé de Ravel, hein, qui nous amène jusqu'à vous, Marc Janson. Des cactus aux palmiers, donc, comme on va le voir. Marc Janson, botaniste, agronome, conservateur à l'Herbier au Muséum National d'Histoire Naturelle, dont vous êtes aujourd'hui responsable, et qui co-signait avec Charlotte Fauve chez Grasset un texte au titre pour le moins limpide. Botaniste, hein, qui est une sorte de retour sur une vocation que vous calez à la fois dans les tiroirs, les planches, les caisses, les couloirs de l'Herbier, avant et après sa rénovation d'ailleurs, hein, on y reviendra, et dans les pas fantômes de ceux qui ont décrit chaque spécimen humaines, à commencer par les premiers grands naturalistes. Je pense bien sûr à Aliné, Tournefort, Poivre et même Léon Mercurin, dont on va sans doute reparler, parce que c'est assez intriguant, parce que je crois que c'est le seul qui a réussi à maintenir les couleurs dans ses herbiers et qui a emporté son secret avec lui.
En tout cas, qu'il l'a fait volontairement, puisqu'il portait vraiment à l'esthétique une considération vraiment forte dans la façon dont il faisait sécher ses plantes et surtout dans la façon dont il les attachait, dont il les montait sur le support cartonné qui les soutient. Et en cela, il est assez unique, oui, absolument.
Alors, aller-retour, donc, entre leurs expéditions au péril de leur vie et les vôtres, sans doute un petit peu moins périlleuses quand même.
Beaucoup moins périlleuses
qu'à l'époque,
aujourd'hui,
bien sûr. Sénégal, Mali, Brésil, Chine, aller-retour entre les étiquettes écrites à l'encre et les codes-barres aujourd'hui, les classifications de l'inné et l'irruption de l'ADN. Dans les années 50, au XXe siècle, donc le métier, ses modalités, ses techniques, ses enjeux, qui ont évidemment évolué. Pour autant, quels seraient les gestes qui subsistent entre le botaniste d'alors et celui d'aujourd'hui ?
Eh bien, tout a changé pour que rien ne change, en quelque sorte, puisque ce qui est assez touchant dans cette science qui est la nôtre, mais dans l'histoire naturelle en général, c'est que ce geste essentiel, ce geste primitif, j'ai envie de dire, qui est cette collecte du vivant pour la décrire et pour la en conserver les traces, eh bien ce geste, il n'a pas changé depuis le XVIe siècle, le début du XVIe siècle, l'invention de ces herbiers, qu'on appelle hortus siccus à l'époque, hein, qui sont vraiment ces purs produits de la Renaissance italienne, qui sont des miroirs, des jardins miroirs des premiers jardins botaniques, qui sont également créés en ce début du XVIe siècle en Italie, et qui sont là pour conserver la mémoire des formes, la mémoire des organes, la mémoire d'organisations particulières qui permettent de donner un nom à toutes ces plantes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui sont aussi la mémoire de la composition que pouvaient avoir ces jardins à l'époque, des plantes qui arrivaient des quatre coins du monde, à qui pouvaient arriver des aventures d'acclimatation pas forcément réussies, donc elles pouvaient être amenées à disparaître dans les collections vivantes des jardins botaniques, mais les herbiers étaient là pour en conserver la mémoire sur un temps beaucoup plus long. Et ce geste essentiel, cette rencontre entre le botaniste et le végétal qu'il a en face de lui, la façon dont on va collecter, la façon dont on va presser, les techniques de séchage, et bien tout ça, quelque part, c'est resté absolument intact entre le XVIe siècle et aujourd'hui.
Comment se présentait une planche d'herbier, par exemple, au XVIIIe siècle, et comment se présente-t-elle aujourd'hui ?
Alors, entre le 18e et aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de changements. On est sur, alors, les papiers, évidemment, ont beaucoup évolué. On est sur des papiers de bien meilleure qualité au 18e siècle qu'aujourd'hui, en tout cas dans leur durabilité. Mais on est sur des dimensions assez comparables. En gros, un spécimen d'herbier, c'est donc un fragment végétal pressé, séché, avec une information associée, c'est essentiel, ce que vous mentionniez, les étiquettes, qui sont assemblées ensemble sur un support papier d'une trentaine de centimètres de largeur sur une quarantaine de centimètres de longueur. Par contre, à la Renaissance, les choses étaient différentes, puisque souvent, les premiers jardins botaniques étaient beaucoup plus des hortus medicus, hein, des jardins dans lesquels on enseignait les plantes aux étudiants en pharmacie, en médecine, en chirurgie. Et la plupart du temps, c'était en quelque sorte des herbiers reliés, c'est-à-dire véritablement des manuscrits dans lesquels les étudiants notaient les noms, les observations, éventuellement les propriétés médicinales des plantes, mais le tout était relié dans des volumes beaucoup plus proches des livres que des herbiers tels que nous les conservons et les constituons aujourd'hui.
Alors, décrire, reconnaître, différencier, aujourd'hui j'imagine aussi mesurer l'évolution hein, des spécimens, c'est ce à quoi s'attelle le botaniste. Décrire donc, c'est-à-dire aussi écrire, alors indépendamment des marqueurs scientifiques et méthodologiques, hein, est-ce qu'on peut parler de style d'herbier comme on parlerait d'un style d'écriture, quelque chose qui fait qu'on identifierait par exemple, je ne sais pas, le travail de Tournefort au hasard, hein, qui serait différent d'un autre herbier. Autrement dit, est-ce qu'il y aurait une place, malgré tout, pour la subjectivité dans la pratique même de l'herbier, y compris national ?
Oui, cette subjectivité, elle existe en lien avec un botaniste, elle existe aussi en lien avec une époque. Au XVIIIe siècle, on pouvait coller les plantes avec de la colle de poisson. Aujourd'hui, on ne collera plus les plantes avec de la colle de poisson. Si on regardait ensemble l'herbier de Tournefort, Tournefort, régulièrement, sur ces spécimens, on trouve des fragments végétaux qui sont cousus directement sur le papier avec un petit fil vert. Et puis ensuite, il y a toutes ces écritures, parce qu'évidemment, pendant très longtemps, les étiquettes étaient des étiquettes manuscrites. Et donc, il y a tout ce savoir qu'on évoque dans le livre avec Charlotte, des figures comme Monsieur Aymonin, comme Monsieur Schmitt. On est capable, eux étaient capables, nous aujourd'hui peut-être un peu moins, à cause des étiquettes qui sont évidemment générées par des bases de données, des ordinateurs, des imprimantes, mais ils étaient capables de reconnaître les écritures précises, la signature de chacun de ces botanistes. Et c'est très important, quand on n'a pas d'autres informations sur le spécimen, d'être capable, à partir de l'écriture, d'identifier, je sais pas, Poivre, Bernard de Jussieu, enfin tous ces botanistes qui ont contribué à la constitution de cet herbier, mais dont parfois le nom n'apparaît pas directement sur le spécimen.
écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Collecter, sécher, décrire et nommer, donc Marc Janson, je pense à ce spécimen que vous inventez, dont vous parlez au tout début du livre, découvert alors que vous rédigez votre thèse, que vous nommez Cariota, Angustifolia, Zumeidar et Janson. Comment est-ce qu'il faut entendre ce terme d'invention, inventeur de plantes, c'est ce qu'on aurait dit au XVIIIe siècle, écrivez-vous dans le livre dès les premières pages.
Oui, alors en botanique, cette tradition, elle s'est perdue, on n'invente plus les plantes. Par contre, ceux qui découvrent des grottes restent des inventeurs de grottes. Ceux qui découvrent certains sites archéologiques restent des inventeurs de sites. En botanique, aujourd'hui, on est plutôt des descripteurs et aussi des observateurs sur le long cours, puisque notre métier, bien sûr, c'est de décrire les espèces. Mais c'est aussi, grâce à la puissance extraordinaire de ces herbiers qui se sont accumulés depuis 3 siècles et demi, 4 siècles, dans des collections comme celle du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, eh bien, c'est de documenter l'évolution des espèces, certes, mais aussi, et de façon beaucoup plus évidente, l'évolution des populations végétales. C'est-à-dire que si on partait avec Bougainville et qu'on suivait Bougainville en porte avec lui Commerson, Philibert Commerson, ce fameux botaniste, grâce à Philibert Commerson, des herbiers vont être collectés dans ce premier grand voyage autour du monde dans un objectif de description, dans cet idéal des Lumières. Et on peut tout à fait comparer les flores sur, par exemple, l'île de la Réunion, qu'a pu connecter Commerson à l'époque, et les comparer avec les flores actuelles et documenter non pas l'évolution des espèces mais l'évolution des écosystèmes, la façon dont l'aire de distribution des espèces s'est peut-être totalement réduit, voire des espèces qui ont complètement disparu et dont on ne garde de traces que dans ces herbiers d'il y a quelques siècles et qui aujourd'hui ne sont plus retrouvables telles qu'elles l'avaient été il y a quelques siècles.
Et nommer, alors dans ces cas-là, alors je parle pour vous là maintenant, donc du botaniste contemporain, nommer c'est simplement décrire ou là aussi il y aurait une place pour une forme de subjectivité? Par exemple le nom que vous avez donné à cette fameuse plante.
Alors c'est un domaine dans lequel il y a une grande liberté et beaucoup de créativité possible. On peut encore aujourd'hui choisir d'honorer sa mère, sa chanteuse préférée, Obama a des lichens à son nom, Lady Gaga a une fougère, on peut imaginer beaucoup de choses. Après, aujourd'hui, la pratique, elle est peut-être plus de prêter attention à la géographie, c'est-à-dire dans quel endroit cette plante a été trouvée, ou à des caractéristiques morphologiques, comme angustifolia, qui signifie feuille étroite. C'est beaucoup plus, en quelque sorte, un hommage à la plante et à ses spécificités, qu'un hommage à un personnage, mais il est encore possible aujourd'hui de dédier une espèce nouvelle que l'on va décrire à quelqu'un dont on est proche ou quelqu'un que l'on veut honorer.
Alors, puisque c'est de palmiers qu'il est question, ce sera votre toute première révélation, Marc Janson, si on ne compte pas l'asperge d'intérieur que vous tirez au collège, qui a sa part aussi dans votre vocation. Palmologue, en tout cas, c'est ce que vous voulez être, après votre premier voyage de lycéen au Sénégal, où vous découvrez des kilomètres de rogniers. Alors, il y aura quelques détours, notamment par le règne animal côté vétérinaire, avant d'en venir à la botanique en général et aux palmiers en particulier. Et voilà ce qu'en dit Alain Hervé, journaliste et écrivain, fondateur notamment de l'association bien nommée Les Fous du Palmier.
Il y a eu une époque de ma vie où j'ai beaucoup navigué à la voile, entre autres sous les tropiques, pendant plusieurs années. Et c'est là que j'ai découvert les palmiers. En fait, j'ai découvert les cocotiers, qui, à certains égards, sont pour moi encore le palmier emblématique. Dans la mesure où le cocotier développe un panache à une flexibilité de tronc, à une manière de répondre au vent, alisé en l'occurrence, d'être échevelé dans les grands vents, etc., qui fait qu'on ne peut pas passer à côté de lui sans l'entendre, parce qu'il fait aussi beaucoup de bruit. Et mon admiration est d'ordre essentiellement esthétique, je dirais dire à la limite peut-être religieux, parce que j'arrive à un degré d'admiration pour le palmier qui quelquefois m'inquiète. Il faut le voir la nuit aussi. Le spectacle d'une palmeraie la nuit est envoûtant. C'est plus fort que l'atmosphère d'une cathédrale gothique, parce que vous êtes dans une cathédrale mouvante. Et ça, c'est phénoménal. Rien que l'alignement, c'est phénoménal. Vous avez une telle suggestion de puissance, de concentration, de calme qui émane de ces arbres, que vous vous dites, on devrait en faire un temple comme un temple égyptien.
La voix d'Alain Hervé, donc, c'était en décembre 2004 au micro de Jim Palette pour Surpris par la nuit sur France Culture. Et pour être précise, il s'agissait même d'une émission spéciale Passion Palmier. Cette dimension religieuse qu'évoque Alain Hervé, est-ce que vous la comprenez, Marc Chanson? Comment est-ce que vous décririez le sentiment que procure le palmier?
Bah, je ne sais pas si c'est religieux, en tout cas je crois que c'est un végétal sur lequel on peut projeter beaucoup de choses, au-delà même des arbres. C'est vrai qu'il y a une force de cette architecture assez unique, de cette résilience. Les palmiers sont très paradoxaux, ce sont des arbres de par leur dimension et leur organisation, mais ce sont aussi des herbes puisqu'ils ne fonctionnent pas comme un chêne, un frêne ou un noisetier. Donc ce sont des plantes de paradoxe, mais c'est vrai que cette esthétique qu'évoquait Alain Hervé, ça a été pour moi une vraie révélation. C'était quelque chose d'important aussi, je crois, d'évoquer l'esthétique et peut-être de sortir les scientifiques de ce côté très logique, très cérébral, très froid, quelque part, pour dire que, bah oui, l'esthétique, effectivement, elle compte. On évoquait Léon Mercurin tout à l'heure. D'autres scientifiques arrivent à choisir, parce qu'il faut toujours choisir. Le monde vivant est trop diversifié pour qu'on puisse, évidemment, s'y consacrer dans son ensemble. Donc, à un moment, dans son cursus, il faut choisir. Et c'est souvent difficile de choisir. Personnellement, c'est vrai que j'aurais été bien embarrassé de choisir si je n'avais pas eu ce choc esthétique qu'a été pour moi la découverte des palmiers. Mais pour d'autres, ça arrive avec des méduses. Il y a cette exposition sur les méduses à l'aquarium du Trocadéro et la commissaire de l'exposition, qui est scientifique, admet absolument que c'est l'esthétique des méduses qui l'a convaincu de consacrer ses années d'études et ses années de carrière à ces organismes. Et donc, je trouve que c'est très important de faire entrer l'esthétique dans la définition d'une activité scientifique et aussi dans ce qui peut pousser cette passion qu'on entend aussi dans la voix d'Alain Hervé. Qu'est-ce qui guide cette passion? Ben, pour une partie, c'est aussi très probablement l'esthétique.
Mais vous vous souvenez, Marc Janson, de ce choc adolescent, hein, donc ces premiers palmiers que vous allez voir tout le long de la route entre Dakar et Saint-Louis, hein, lors de votre premier voyage au Sénégal, dans les pas d'ailleurs d'un célèbre grand botaniste, un peu oublié de l'histoire, Adanson, un naturaliste aixois du XVIIIe siècle. Vous vous souvenez de ce premier choc esthétique?
Oui, bah c'est une répétition. D'abord, ce sont tous ces végétaux qui sont quand même assez denses. C'est la façon dont ils vont capter la lumière, puisqu'on a ce grand stipe, donc ce tronc qui n'est pas un tronc chez les palmiers. On parle de stipe parce que l'organisation, encore une fois, est très différente d'un tronc de chêne, de frêne ou de hêtre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant de voir tout ce feuillage qui n'est pas du tout structuré comme les arbres de chez nous, avec une sorte de distribution homogène dans une couronne très très ramifiée. Là, on a véritablement la concentration de toutes ces feuilles, de toutes ces fleurs, de tous ces fruits, de tout ce qui fait l'essence du végétal, rassemblé comme ça en haut d'une haute tige, parce qu'après, il faut imaginer, bien sûr, que ce sont des organismes, ces fameux rogniers, palmiers rogniers, qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans cette extrême simplicité, quelque part, dans l'organisation, puisqu'il n'y a qu'un seul bourgeon en haut de ce stipe, et que donc les palmiers vont, en général, chercher à les protéger en ayant une accumulation, comme ça, de bases, des pétioles qui forment des sortes de gaines qui viennent, comme ça, entourer et protéger le bourgeon. Donc, quand on commence à s'intéresser à la biologie un petit peu particulière de ces plantes, on se rend compte qu'elles ont vraiment une identité forte. Et je crois que c'est ce qui a aussi marqué Alain Hervé dans sa découverte des cocotiers.
Alors, Alain Hervé parlait aussi du bruit du vent
dans les palmiers. Les palmiers sont assez bavards.
Alors, c'est quelque chose dont parle également Cees Notboom. Vous parlez également de ce bruit, de ce vent dans les palmiers, parce qu'il y a aussi des palmiers dans votre jardin à Minorque, oui, que vous avez planté.
Que j'avais planté moi-même et que j'ai vécu avec 50 ans jusqu'au moment où je pouvais plus leur couper les branches. Et là, il faut le laisser à des autres dont on n'a pas du tout envie. C'est pas le mien. Mais aussi, quand il y a un orage, parce qu'il y en a sur les îles Baléares, la musique, la composition de tout, je sais pas tout le nom en français, Bella Sombra, ça vous dit quelque chose?
C'est un genre de baobab, en fait.
Peut-être, oui. Et tous ont leur propre musique.
Écoutez, une plante, est-ce que ça peut faire partie, ou est-ce que ça devrait faire partie, Marc Janson, de sa description, de son interprétation? Je pense par exemple à une plante nommée Ravenea musicalis binch, ou encore, je pense aussi à vous aussi, au bruit des palmiers que vous entendez en Floride, dans la palmeraie où vous êtes envoyé pour vos recherches. Est-ce que ça devrait faire partie de la description?
Je ne sais pas si ça devrait faire partie de la description, parce que c'est un domaine en tout cas dans lequel j'ai du mal à identifier des identités précises au niveau des espèces. Disons qu'effectivement, il y a certains sons qui évoquent certains types de végétation. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que la description d'une espèce, ça passe aussi par une certaine sensorialité. C'est ce qu'on a aussi abordé, c'est-à-dire que c'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est éventuellement des pilosités, c'est des productions de latex, de gomme, d'encens. Et tout ça, quand on va presser la plante pour la préparer, pour son entrée dans l'herbier, en quelque sorte, ce sont des informations que l'on peut perdre. Certaines, la plupart des couleurs vont effectivement s'affadir, certaines odeurs vont s'atténuer complètement, d'où l'importance de ces étiquettes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que décrire le vivant, ça se base sur un herbier, mais il y a cette étape sur le terrain qui est absolument fondamentale, cette première rencontre avec le végétal vivant et le botaniste, parce que quantité de ces informations vont être perdues au séchage, et il y a vraiment cette étape cruciale de documentation, où on va vraiment consigner tout ce qui va se perdre, ou tout ce que le botaniste qui passera après vous ne pourra pas voir, parce que faire une collecte en herbier, c'est choisir. Quand on parle d'un palmier qui fait 20 ou 25 mètres de hauteur, évidemment, il faut choisir. Les palmiers sont les détenteurs des plus grands records dans le monde végétal. Hein. La plus grande feuille du monde, c'est un palmier du bassin du Congo qui l'a produit, qui va faire jusqu'à 25-30 mètres de longueur. La plus grosse graine du monde, le plus gros fruit du monde, ce sont aussi des palmiers qui les produisent. Donc, il y a véritablement un choix à faire, une sélection dans les organes ou les parties d'organes que l'on va prélever sur cette plante pour les consigner dans l'herbier. Donc, il y a cette étape très importante où on doit vraiment être à l'affût, avoir tous nos sens à l'affût pour pouvoir noter et garder en mémoire tout ce qui va se perdre dans la suite du destin de ce spécimen d'herbier qui rentrera ensuite en collection.
Alors en tout cas, ces informations sensorielles, c'est quelque chose sur quoi un botaniste comme Patrick Blanc va insister énormément. Alors il n'y a pas que des fantômes de naturalistes dans le livre. Il est aussi question, évidemment, de Francis Allais. Et il y est question également de Patrick Blanc, mon sauveur, dites-vous, puisqu'il vous est apparu sur l'écran d'une télévision lorsque vous étiez adolescent, un homme aux cheveux verts, fou de plantes, botaniste, qui avait l'air de s'amuser beaucoup. On l'écoute, ou presque.
Mandevilla, triste la teia. Tu m'enchantes, je te transplante de l'enfer vers mon univers, et j'enterre ma vie solitaire. Protégée, tu réitères. On court, mon amour, pour toujours vers les cieux. Je savoure, silencieux, ton parfum.
Alors c'est la voix de Pascal Aigné alias Pascal of Bollywood chantant Un peu de botanique, qui est un texte signé Patrick Blanc, que vous avez demandé à entendre Marc Janson. J'imagine que c'était surtout pour parler de lui.
Cette capacité à produire des chansons botaniques, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Et donc au-delà du paysagiste que l'on connaît tous, ou en tout cas de l'inventeur des murs végétaux, eh bien, il y a aussi ce talent et ce goût qu'il a pour la chanson. Et c'est vrai que entendre les plantes, non pas appelées par leur nom vernaculaire de passiflore ou d'hortensia, mais par cette sorte de rigueur du nom scientifique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui montre que ces noms scientifiques qu'on voit souvent comme des choses un peu pédantes ou rébarbatives ont vraiment une portée. C'est-à-dire que, effectivement, pour reprendre cet exemple des pépiniéristes qui parlent de cactus, là, on voit bien qu'on a tout de suite une image très précise qui arrive lorsqu'on entend passiflora, alamanda ou une autre plante. Donc c'est encore une fois pour dire que ces noms scientifiques sont vraiment essentiels, qu'on les utilise encore aujourd'hui, que le latin vit aussi en partie grâce à toute cette taxonomie, toute cette nomenclature botanique que l'on utilise au quotidien, et l'avoir exprimée dans une chanson, j'ai trouvé que c'était suffisamment original pour avoir sa place dans cette émission.
D'autant plus que Patrick Blanc chante également sur le terrain.
Oui, il chante aussi beaucoup sur le terrain. Voilà, c'est une vision de la forêt et du terrain qui est assez unique.
Alors avec lui, Marc Janson, vous partagez sans doute, issu de l'enfance, le goût des espaces sauvages évidemment, mais surtout le goût des flaques, des mares, des petits interstices. Hein. C'est même presque par là que vous commencez votre récit. Alors qu'enfant, vous passiez des heures à farfouiller dans la boue, dans les mares qui, néanmoins, ont l'avantage de contenir règne animal et végétal, hein, que vous avez mis du temps d'ailleurs à trancher entre les deux, et ça sera finalement une opération de castration de cheval qui aura raison de votre possible vocation de vétérinaire. Choisir le règne végétal, Marc Janson, plutôt que le règne animal, c'était choisir quoi ? C'était choisir surtout une autre temporalité ? Parce que vous revenez beaucoup là-dessus.
Oui, ben c'était déjà choisir. Pour choisir, il faut à minima deux choix. Or, enfant, et comme la plupart des humains qui peuplent ce monde, enfant, il n'y a qu'un seul choix, c'est l'animal. En général, celui auquel on s'identifie, c'est l'animal, parce qu'il nous ressemble, parce qu'il bouge en permanence, comme nous, parce qu'il souvent il a une température corporelle contrôlée, parce qu'il a des poils, parce qu'il allaite ses petits, et qu'instinctivement, les enfants vont se diriger vers le règne animal. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que souvent, en tout cas...
Mais pas forcément vers les vers de terre, pas forcément parce qu'on trouve dans les mares.
Oui, peut-être, c'est vrai. J'avais pas imaginé ça comme ça. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'insectes, beaucoup de choses qui bougent et qui quelque part ont beaucoup plus de points communs avec nous que les plantes qui sont en quelque sorte une altérité totale. À la fois dans leur rapport à la temporalité, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'elles vont assembler des éléments vivants et des éléments morts en même temps. Enfin, l'unicité, les particularités des plantes sont immenses, on va peut-être pas les lister complètement ici. Francis Allais utilise une image que j'aime beaucoup pour parler du végétal et de cette espèce de moment un petit peu essentiel où l'on va en quelque sorte basculer pour comprendre le végétal pour ce qu'il est. C'est, vous savez, ces images qu'utilisent les opticiens ou les ophtalmos quand vous allez les voir, c'est lié à des problèmes de muscles, je crois, qui contrôlent les globes oculaires. On vous donne une image dans laquelle vous ne voyez absolument rien et on vous dit, vous allez voir, je sais pas, trois lions. Et donc, vous placez cette image en face de vous, vous l'éloignez progressivement de votre regard et à un moment, sans véritablement comprendre pourquoi, eh bien, les éléments de l'image vont se dissocier et vous allez enfin voir cette promesse qu'on vous a faite en vous disant, vous allez voir ça. Ben, les plantes, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ces plantes, elles font complètement partie du décor, on les côtoie au quotidien, mais on les associe à une masse, à une sorte d'uniforme vert, hein. Ce terme d'espace vert, je trouve, est très parlant en la matière. Eh bien, à un moment, il faut aller un peu plus loin que la masse, le continuum ou l'espace vert, et il faut aller vraiment voir ce qui fait les caractéristiques de ces différentes entités du vert. Et quand on comprend ça, quand on voit enfin les plantes pour ce qu'elles sont, pour leurs caractéristiques, pour leur immense beauté, bien sûr, pour leur biologie si particulière, eh bien là, on a vraiment le choix. On peut choisir entre l'animal et le végétal parce qu'on a compris ce que c'était que le végétal, qu'on a commencé une relation avec le végétal. Et à ce moment-là, pour moi, il n'y avait plus de doute possible, oui.
Alors, puisque vous citez Marc Janson, justement, Francis Allais, lui, entre autres choses, explique que, par exemple, aimer les arbres, c'est aimer les hommes. Est-ce que ce choix-là, c'était un choix qui était aussi une autre façon d'aimer les hommes, ou est-ce que c'était une façon de prendre ses distances? Que vous racontez aussi, comment enfant, vous aviez quelques difficultés avec...
Moi j'ai aimé les plantes pour aimer les plantes, pour aimer ce qu'elles ont de si particulier, ce silence, cette résilience, cette fixité qui n'est pas un immobilisme, hein. Les plantes bougent, évoluent, cette volonté qu'elles ont de croître en permanence, hein. La définition du végétal, c'est la croissance. Si les animaux arrêtent leur croissance à un moment ou à un autre, les plantes sont en perpétuelle croissance. Et leur beauté, leurs odeurs, leur générosité, enfin tout ce qui est absolument admirable dans ce règne du vivant que représente le végétal.
Et sa capacité à apaiser les angoisses aussi, et les angoisser.
En tout cas pour moi, oui.
Alors l'herbier, c'est une affaire historique, scientifique, humaine, et on voit que tout ça est vraiment tressé tout du long dans le texte, et ne cesse de passer de l'un
à
l'autre.
C'était une difficulté, c'est que c'est une collection multiple.
Sans véritablement choisir entre justement le végétal et l'humain, ou en tout cas en passant de l'un à l'autre en permanence. Et vous racontez comment ces siècles d'herbier racontent bien sûr l'histoire des plantes, celle des botanistes aussi, parce qu'au fond on peut dater, localiser leur déplacement rien qu'en regardant les herbiers, mais aussi celle des sciences, et même encore une histoire plus idéologique, hein, par exemple comment la botanique a été instrumentalisée, comment elle raconte par exemple une histoire coloniale, ou comment elle montre encore aujourd'hui les scories de cette histoire coloniale. S'il fallait, alors là c'est un peu de spéculation, mais s'il fallait examiner la botanique d'un point de vue de son inscription dans le présent, c'est-à-dire de l'histoire contemporaine, qu'est-ce qu'elle raconterait de notre époque?
C'est une question intéressante, effectivement, puisque si on voulait être tout à fait honnête, ces grandes collections d'histoire naturelle, le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, c'est plus de 65 millions de spécimens. Avant d'arriver à Paris, j'ai eu la chance de travailler quelques mois à Montpellier, à l'Université de Montpellier, où se trouve un herbier extraordinaire au niveau national et international. Ne nous mentons pas, ces collections, à partir des années 70-80, elles ont été complètement pas complètement abandonnées, j'exagérerais en disant ça, mais en tout cas, elles ont été abandonnées dans leur portée symbolique, historique et scientifique. Et on sent aujourd'hui que le grand public, hein, les scientifiques ne l'ont évidemment pas abandonné, mais je parle là du grand public et des attentes sociétales par rapport à ces collections, on sent qu'aujourd'hui il se passe quelque chose, qu'il y a un regard nouveau, qu'il y a une attente. Le muséum y répond en publiant des manifestes, hein, il y a deux manifestes qui ont été publiés. On sent bien que l'histoire naturelle est replacée aujourd'hui comme une sorte de creuset, de lieu obligatoire pour la compréhension du monde d'aujourd'hui et surtout pour apporter des solutions au monde de demain, puisque on comprend bien aujourd'hui que c'est la biodiversité, en quelque sorte, qui va être la question essentielle de notre avenir en tant qu'humain. Hein, l'avenir de la planète, il faut, à mon avis, le placer dans une autre grille d'analyse, puisque le vivant a toujours existé, le vivant a subi des crises absolument extraordinaires dans leur force et dans l'ampleur de leurs éradications, et pourtant, il a toujours persisté. Donc, c'est vrai que l'avenir de l'homme, aujourd'hui, on le sent, va passer par à la fois toutes ces histoires qui ont été accumulées, mais aussi cette capacité de décrire le monde, puisque aujourd'hui on parle d'une nouvelle politique en astronomie pour retourner sur la Lune, pour s'approprier éventuellement les ressources martiennes et autres, mais le grand inconnu, en tout cas pour un taxonomiste, pour un biologiste aujourd'hui, il n'est pas forcément dans l'espace, il est surtout autour de nous, puisqu'on estime qu'on a décrit entre 10 à 15% du monde vivant qui nous entoure. Les champignons, les bactéries, les archébactéries, mais aussi les animaux, mais aussi les plantes vasculaires, les plantes à fleurs, il y a encore un travail absolument colossal à fournir pour décrire et pour comprendre ce monde vivant qui nous entoure. Et on sait très bien qu'on a vraiment une urgence devant nous, puisqu'en même temps que ce constat est posé sur cette espèce de grande ignorance qui est la nôtre face au monde vivant qui nous entoure, eh bien on sait qu'on déploie quantité d'énergie, des efforts surhumains pour l'éradiquer au même moment. Donc il y a une espèce de paradoxe, et je crois que la botanique a tout à fait voix à ce chapitre, et c'est en quelque sorte une science essentielle de ce 21e siècle qui s'ouvre.
Marc Janson, c'est Snodbaum, merci vraiment à tous les deux. C'est la fin de cette émission, hein, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Eh bien, j'ai le temps quand même de vous demander quelque chose.
Allez-y.
Qu'est-ce que c'est la possibilité de donner un nom à une plante ? Par exemple, je suis grand admirateur de Nabokov, et Nabokov était lépidoptériste. Il a laissé trace de son nom ici et là en différents exemplaires. C'est une satisfaction si on peut faire ça.
Alors souvent, les systématiciens, c'est-à-dire ceux qui s'occupent à décrire le monde vivant, qui s'intéressent aux papillons ou aux plantes, n'ont pas l'orgueil de se dédier à eux-mêmes une espèce nouvelle qu'ils pourraient décrire. Donc en général, c'est un hommage qui est rendu à quelqu'un, à Nabokov par exemple, par un de ses amis, un de ses admirateurs qui est scientifique et qui a la possibilité de décrire le vivant. Linné a fait ça, Linné s'est dédié à lui-même un genre de plante, mais en général, on a quand même la modestie d'attendre que des collègues ou des amis le fassent pour nous.
Oui. Autre question. Pendant mes voyages en Amérique latine, assez souvent, j'ai rencontré von Humboldt, non ?
Bien sûr.
Et là, je me suis toujours dit, ça doit être un des hommes les plus heureux, parce qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Et il est rentré avec tout cela, il a amené beaucoup de choses. Et il est en Allemagne, il y a encore beaucoup d'endroits où on peut les voir, le lire.
Absolument, et c'est à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, à l'Herbier, que nous avons la plus grande collection de végétaux collectés par Humboldt et Bonpland lors de leur immense expédition. Donc il est présent aussi dans notre quotidien, à la fois de gestionnaire de collection, mais aussi d'amoureux de l'histoire des sciences et de l'histoire de ces grandes expéditions.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, il y a la technique Bernard Lagniel, Thierry Beauchamp à la préparation, Laurence Malonda à la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Cécile Notebaum et Marc Janson sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.